micro d'économie, Nazer Coco.
$15 millions de dollars américains, c'est le coût de la relance de la foire internationale de Kinshasa. L'édition 2008 est à mi-chemin. Comment rendre cette foire compétitive? C'est le dossier économique de la semaine avec Jocelyne Moussaou-Pondé. Plus de 150 wagons de produits importés attendent depuis plus d'une semaine d'être acheminés à Mbujimayi. Par manque de moyens de transport, ces produits sont entreposés à la gare de la Société nationale des chemins de fer de Mwenditou. C'est le reportage à suivre dans un instant. Bien communiquer permet aussi de bien se vendre. Cette réalité n'est pas encore bien perçue par les entrepreneurs nationaux congolais, constate Didier Mpambia, le directeur de relations publiques des communications événementielles à Pigment et l'entrepreneur de la semaine.
Les infos économiques de la semaine.
La compagnie Katanga Mining a arrêté sa production de cuivre et de cobalt à cause de la faible productivité des travailleurs et en raison des délais que prendra la mise à niveau de la ligne de production. La livraison du cuivre a baissé à 27 500 tonnes en 2008 contre 33 500 tonnes prévues antérieurement. La production du cobalt est passée de 2 900 à 2 700 tonnes. Une étude de faisabilité sera réalisée d'ici septembre prochain pour permettre à la compagnie d'augmenter sa production. Son objectif reste d'atteindre 300 000 tonnes de cuivre et 30 000 tonnes de cobalt d'ici 2011. En Nord-Kivu, les entreprises et les comptoirs miniers ont interrompu leurs activités depuis 2 mois maintenant. Plus de 3 000 tonnes de minerais d'une valeur de 40 millions de dollars américains sont bloqués dans cette province ainsi que dans le sud Kivu, faute d'exportation. Selon John Kanyuni, président des opérateurs du secteur minier, cette situation a provoqué des conséquences néfastes matérialisées par la mise en chômage depuis 2 semaines d'un grand nombre d'employés, sans compter le manque à gagner tant pour les opérateurs miniers que pour l'État congolais. Sifamaguru.
Plus les jours passent, plus les opérateurs miniers sont pénalisés. Une situation aggravée par les changements effrénés des cours du marché mondial et du manque d'investissement. Conséquence, des milliers d'employés sont placés en chômage technique, déclare John Kanyoni. Tout remonte à 2 mois lorsque la mercuriale hebdomadaire de l'exploitation des minerais est passée de 4 à 14 dollars. John Kanyoni pense que cette situation ne leur permet pas de travailler. Néanmoins, des négociations sont en cours à Kinshasa et tout porte à croire à une évolution positive.
Et présentement, nous avons déjà trouvé un compromis lors des négociations et nous attendons que l'autorité, c'est-à-dire les deux ministres, les ministres des Mines et des Finances, puissent signer cet arrêté interministériel pour trouver une solution. Notre activité est une activité qui booste l'économie de toutes les provinces voisines au nord et au sud Kivu, notamment le Maniema, la province orientale, le nord Katanga. Ce qui fait que même les compagnies d'aviation dépendaient essentiellement de notre activité. Vous verrez que l'activité est devenue quasi inexistante. Donc voilà plus de 40 millions de dollars qui sont bloqués. On ne sait pas exporter. Les négociants qui dépendent essentiellement de notre travail ne travaillent pas. Les créateurs artisanaux ne travaillent pas.
Dans l'immédiat, les conséquences se font sentir. Un manque à gagner de plus de 2 millions de dollars américains du côté de l'État, sans compter celui des opérateurs miniers. Notons que plus de 30 comptoirs des minerais au nord et au sud Kivu ont fermé leurs portes. Face à cette situation, les opérateurs souhaitent une solution rapide.
Plus de 1800 carats de diamants volés à la centrale de triage de la minière de Bakwanga, puis retrouvés par la suite. Le coup a été opéré dans la nuit de mardi à mercredi au polygone minier. 2 personnes sont déjà aux arrêts. Il s'agit du chauffeur de la MIBA, d'un des chauffeurs, donc, et d'un préposé à la caméra de surveillance. La MIBA qui confirme le vol ne donne pourtant pas de précisions sur la quantité exacte de diamants réellement subtilisés, ni sur les circonstances de ces vols. Pour résoudre les questions liées à la dette publique intérieure de la République démocratique du Congo, l'Office de la gestion de la dette publique, OGDEP en sigle, organise un séminaire atelier sur l'analyse et les méthodes de gestion de la dette intérieure de la République démocratique du Congo à son siège à Kinshasa. Ces travaux ont débuté le lundi 18 août et dureront 10 jours. Ils sont réalisés en collaboration avec la Banque africaine de développement.
Thank you. Le dossier de la semaine.
Relance de la foire internationale de Kinshasa, à quand et à quel prix? L'édition 2008 de la FIKIN est à mi-chemin. Que faut-il faire pour que la foire soit de nouveau compétitive sur le plan économique? Alors, Jocelyne Moussa Opondé, vous vous êtes penchée sur la question cette semaine. Dites-nous d'abord, à quoi ça sert une foire?
La foire, au fait, Nazaire, c'est un grand milieu d'échange. Hein. C'est un milieu qui fait rencontrer des opérateurs culturels, sociaux, politiques et économiques, et j'en passe. Ces personnes physiques ou morales viennent pour les uns faire connaître leurs produits et pour les autres découvrir, prendre des contacts, acheter, parce qu'au fait, la foire est un milieu par excellence des promotions et c'est un grand marché, un très grand marché. Nous avons interviewé quelques exposants. Écoutez ce que dit le responsable chargé de l'image de marque de Vodacom, Albert Mboyo.
Si nous faisons les mauvaises ventes, on fait 50 000 abonnés à la foire. Mais en dehors de ça, on défend l'image de marque de la société. C'est le moment des fêtes, c'est le moment des promotions. On permet aux gens qui n'ont pas eu les moyens de profiter pendant la période foraine pour acquérir les biens qu'ils en avaient besoin. Aujourd'hui, la concurrence est devenue rude. Et si vous vous rendez compte de tous les efforts que toutes les sociétés font aujourd'hui en termes de remises, en termes de rabais, pour gagner de nouveaux abonnés, et dans un espace comme la FIKIN, en faire déjà 50 000 minimum, moi je dirais que c'est un exploit. À la FIKIN, vous avez des retombées immédiates et vous avez des retombées à moyen et long terme qu'on ne fait pas évaluer directement, mais on fait des études du marché pour voir quelles sont les vraies retombées de la FIKIN. Et je dis toujours qu'on sort gagnant.
Voilà, Nazer, on sort gagnant, mais il n'y a pas que les sociétés commerciales qui exposent à la FIKIN. Hein. En circulant, nous avons vu par exemple des stands de la SNEL, la Régie des Eaux, de la SONAS et j'en passe. D'ailleurs, la DG de la SONAS nous a accordé une interview. Il explique l'importance pour sa société, la Société Nationale d'Assurance, d'être représentée à la FIKIN. Herman Bognon.
L'importance de la FIKIN est très grande dans la mesure où la SONAS trouve au sein de la FIKIN une clientèle qu'il n'a pas forcément l'habitude de rencontrer, sans compter l'espace d'exposition qu'il nous a offert qui permet une visibilité beaucoup plus grande. Il y a des gains à court terme, il y a des gains à moyen, des gains à long terme. Lorsqu'on dirige, dit-on, c'est prévoir, il faut anticiper. L'objectif de la SONAS, ce n'est pas d'avoir des gains immédiatement. C'est de s'installer dans l'esprit du public comme un interlocuteur incontournable, puisqu'on les rencontre partout où on va.
Alors, si je comprends bien, c'est donc très important d'être représenté à la FIKIN.
Oui, Nazer, mais cet avis n'est pas partagé par tout le monde. Cela dépend, bien sûr, des stratégies marketing d'une entreprise à une autre. Certaines entreprises qui ont malheureusement préféré garder l'anonymat disent qu'elles peuvent mieux gagner, même en dehors du cadre de la FIKIN, mais aussi elles évoquent des problèmes d'organisation.
Les problèmes d'organisation, puisque vous en parlez, Jocelyne, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour réhabiliter la FIKIN, pour qu'elle revête l'image d'antan?
Selon l'ADGA de la FIKIN, des études menées ont révélé qu'il faut au moins 15 millions de dollars américains pour réhabiliter cet édifice.
Et d'où pourront provenir ces ressources?
Toujours selon l'ADGA de la FIKIN, seules les recettes générées par les éditions foraines ne suffisent pas, et même celles réalisées par les paiements du loyer du motel FIKIN. Et en passant, on signale que ce motel a été conçu pour loger les exposants étrangers, mais aujourd'hui est occupé par des particuliers. Donc pour revenir à ce que je disais, Nazer, il faut qu'on associe des partenaires pour réhabiliter la FIKIN. Écoutons Christophe Colomoni, administrateur délégué général adjoint de la FIKIN.
Un effort est mené dans le cadre de la mobilisation des ressources afin de pouvoir réhabiliter un véritable parc d'attractions à la dimension moderne. Et là, nous sommes en pourparler avec un entrepreneur local et aussi avec une firme étrangère, notamment brésilienne, pour voir dans quelle mesure nous pouvons réhabiliter les parcs d'attractions. Et quand on recherche comment réhabiliter, comment ramener une entreprise à la vie, il y a autant de voies de sortie. Quand je vis tout le travail qui a été effectué par les Copirep, je me suis rendu compte, pour le petit temps que je suis à la fois dans l'Inkinshasa, j'ai pensé plus que c'était aussi l'entreprise qui pouvait être placée sous contrat de gestion, comme j'en ai vu pour la RVA, la CNC, tant d'autres, puisqu'en fait, quand nous faisons l'état des lieux, et quand nous abordons l'aspect recherche piste de solution, on rendons compte que pour remettre cette entreprise sur les rails, tout doit nous venir de l'étranger, ou de certaines firmes. Alors, Autant on a fait pour le natural et la chasse d'autres. Il fallait aussi le faire pour la foire. C'est raison pour autant qu'il existe d'autres foires qui ont plus de moyens, de capacités économiques que nous autres, afin de nous permettre de rattraper les niveaux.
Donc on peut envisager de privatiser la FIKIN.
On peut pas l'affirmer, Nazer, mais vous avez suivi Christophe Colomoni. Des études sont en cours, des démarches pour mobiliser les recettes. Il faudra peut-être ouvrir des capitaux. L'avenir nous en dira un peu plus. Mais déjà, il faut dire que la foire dispose de l'espace. C'est déjà un atout, un pas. Et les études, une fois achevées, pourront déterminer qui fera quoi et qui prendra quoi.
Merci beaucoup, Jocelyne. Donc, dossier à suivre.
Merci, Nazer.
Les infos économiques en Afrique et dans le monde.
La moitié de l'économie mondiale est déjà ou risque d'entrer en récession, estime l'économiste de Goldman Sachs dans une note envoyée à ses clients ce vendredi. Selon l'agence Bloomberg, les États-Unis, le Japon, la zone euro et le Royaume-Uni sont fragilisés, précise cet expert qui considère cependant que l'économie mondiale dans son ensemble n'a que 20% de chances d'être en récession grâce notamment à la croissance soutenue de la Chine. Petit regard sur le marché londonien où les métaux stagnent dans leurs difficultés entamées la semaine dernière. Le cuivre reste en dessous de 8 000 $ la tonne. Ce vendredi soir, la tonne de métal rouge s'est négociée à 7 842 $. Le cobalt maintient sa mauvaise cotation de 64 000 $ la tonne contre 5 000 $ il y a 3 mois. L'étain se confirme en dessous de 20 000 $ la tonne, soit 19 000 $.
Reportage de la semaine.
Difficile d'acheminer actuellement des marchandises de la ville ferroviaire de Mouenedit ouvert en Mbujima et au Kassai oriental. Plus de 150 wagons des produits importés sont entreposés à la gare de la Société nationale de chemin de fer à Mouenedit depuis plus d'une semaine faute de transport. Ces wagons contiennent des produits divers dont certains courent le risque d'être avariés. La SNCC, Société nationale de chemin de fer, lance un appel aux propriétaires de remorques parties de Mouenedit à revenir. Nikem Poutou.
La difficulté qu'éprouvent actuellement les commerçants du Kassai est due au manque de transport pour acheminer les produits dans la capitale provinciale. Les camions remorques se font rares et les prix d'un conteneur sur les quelques engins qui restent encore en opération est passé de 1250 à 1800 voire 2 000 $ américains. Du coup, les opérateurs économiques ne savent plus où donner la tête. Ils sont obligés dès lors qu'ils n'ont pas libéré les wagons de la SNCC de payer le chômage par heure, frais perçus par la SNCC au cas où la marchandise demeure stockée dépassée le délai de 48 heures dans les wagons. Certains commerçants contactés témoignent que cette situation de rareté des camions remorques vient s'empirer par l'affectation des petits engins qui aident tant soit peu au transport vers les villages pour la récolte de moissons de la deuxième saison. Témoignage.
En tant qu'opérateur économique, je sais qu'on avait des transporteurs de talents ici reconnus comme CAPS, comme Ventrasca, comme Maison MBP et les autres. Mais tous ces transporteurs-là, pendant les moments très difficiles, l'acheminement était problématique par la SNCC. Pendant tous ces moments de difficultés, là, pour eux, ils ont choisi d'évoluer dans d'autres siers. Mais maintenant, il nous reste payé des remorques, mais nous avons beaucoup de wagons en gare. Même moi qui vous parle ici, je suis en difficulté d'acheminer tous mes wagons. J'ai plus de 12 wagons, mon éditeur, je suis en train de payer maintenant le chômage auprès de la SNCC. Il commence par 200 $ la journée. Nous attendons, on sait que la situation s'améliore. Mais ça va s'améliorer quand?
Cherchant à savoir la cause de la diminution des camions de transport à Mouenedit-Ou, nos enquêtes ont révélé que les transporteurs de Mbujimayi quittent la province pour chercher des gains importants dans d'autres provinces, dont le Katanga et Kinshasa, suite à la crise qu'avait connue la SNCC dans l'acheminement constant des produits. Pour ne pas rester les bras croisés, ils ont donc quitté la province. Un commerçant explique.
Les camions des opérateurs économiques chômés sur place, ils savaient quoi faire, les autres transformés en camions d'une roue pour aller dans des villages chercher la. Je crois que le rythme de travail qu'il y avait à Mouenedit est tout à fait différent de ce qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'avec l'arrivée de M. Kass, maintenant on voit qu'il y a un acheminement tout à fait correct. Nous allons prendre les décisions de pouvoir remettre le camion sur la route. Nous mettons tous nos efforts pour pouvoir décanter cette situation.
Actuellement, la situation s'est améliorée. La SNCC achemine correctement les marchandises. analyse et lance un appel aux propriétaires des remorques partis à Kinshasa ou au Katanga de revenir pour aider les opérateurs en difficulté. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que l'appel a été entendu. La situation se décante petit à petit. Certains opérateurs économiques partis sont intéressés de revenir en province.
Matières premières.
Le cours du cobalt a chuté de moins 40% ces derniers mois sur le marché londonien. Le cuivre voit aussi son cours chuter sur le marché international. Le gouvernement congolais avait brièvement suspendu en juin l'exportation des minerais bruts du cobalt. La République démocratique du Congo renferme 30% des réserves mondiales de cobalt. Les conséquences sur l'économie congolaise avec vous, Jocelyne Moussa Opondé.
À la base de la chute des cours des métaux, selon un expert, la dégradation de l'économie mondiale qui continue à faire craindre une baisse de la demande des métaux. À cette raison, il faut ajouter une autre, la Chine, gros acheteur qui dispose de beaucoup de réserves, a commencé à vendre ses stocks. D'autres analystes y voient aussi l'intervention des spéculateurs. Le marché du cuivre et du cobalt congolais, lui, connaît d'importants remous ces derniers mois. Le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, a successivement interdit, puis de nouveau autorisé, l'exportation de minerais de cuivre et de cobalt non traités afin d'obliger les industriels à construire des concentrateurs sur place. Le mois dernier, Katumbi a ainsi donné son feu vert à 9 sociétés pour reprendre les exportations des concentrés de cobalt. Selon un expert, la chute des cours du cuivre et cobalt sur le marché international ne devrait pas avoir a priori des conséquences négatives sur l'économie congolaise à brève échéance. C'est là du fait que cette économie ne repose plus à 70 voire 80% sur l'exportation de ces deux métaux comme ce fut le cas avant. Le seul risque à craindre, c'est que ces entreprises manquent de liquidité pour tourner normalement, ce qui peut engendrer par exemple sur le plan social certains remous, mais aussi les ralentissements du secteur.
Écho d'économie, vos questions et suggestions à echo@radiocapi.net.
Les entrepreneurs locaux congolais peu intéressés à la communication alors que bien communiquer permet de bien se vendre, constat de Didier Mpambia, directeur de relations publiques et communication événementielle à Pigma, une firme congolaise de communication intégrée touchant aussi bien la publicité, les relations publiques, l'événementiel et des activités en termes d'activation sur terrain. Monsieur Mpambia est donc l'entrepreneur de la semaine. D'abord cette question, monsieur Didier, comment vous en êtes arrivé dans le secteur de la communication?
J'ai un background universitaire en administration des affaires avec une formation avec un volet relations publiques et journalisme au Canada. Donc c'est naturellement qu'on s'est orienté dans un secteur où on avait l'expertise.
En tant que directeur chargé de relations publiques, quel est votre boulot?
Relations publiques, c'est surtout travailler sur les perceptions, essayer de travailler sur l'image, gérer l'image d'une entreprise ou d'un individu et essayer de toujours donner à nos clients une valeur ajoutée, surtout au niveau de la couverture médiatique. Côté événementiel, nous organisons des conférences, des lancements de produits, des lancements de compagnies et aussi des événements comme nous avons initié l'année dernière le Festival international de gospel de Kinshasa qui est à sa deuxième édition et qui permet donc de produire des jeunes talents en termes de musique gospel.
Alors comment vous voyez ce marché-là en pleine croissance ou bien vous estimez que c'est un marché qui évolue difficilement en RDC?
C'est un marché qui est en pleine croissance, surtout pour les entreprises qui viennent d'ailleurs, qui viennent travailler en RDC. Il y a souvent des problèmes de perception, des problèmes d'image à gérer en termes de relations publiques. Pour les entreprises locales, très peu comprennent souvent l'importance de bien communiquer.
Et pourquoi?
C'est une question de culture hein, et aussi de temps. À l'époque, il n'y avait peut-être pas beaucoup d'entreprises ici. Plus il y a des entreprises dans un marché, plus il faut savoir bien communiquer pour pouvoir soit vendre ses produits ou encore faire connaître son entreprise auprès des publics que l'on vise. Plusieurs ne comprennent pas encore l'enjeu communicationnel, mais il y a certaines personnes quand même qui commencent à s'y intéresser progressivement. Mais c'est une question aussi d'éduquer les gens, informer les gens, leur dire pourquoi ils doivent communiquer, de quelle manière ils doivent communiquer, avec qui ils doivent communiquer. Et ça, c'est notre travail aussi, d'aller vers les gens. Et nous faisons beaucoup de prospection, nous rencontrons des gens dans les entreprises ici, au niveau des ministères aussi, hein, parce que même au niveau de l'État, il y a lieu de bien communiquer une vision par exemple. ça peut être aussi l'image d'un pays.
Qui sont le gros de vos clients?
Nous travaillons beaucoup avec le secteur des communications, des télécommunications, le secteur des mines, les institutions internationales genre Banque mondiale, FMI, quelques ministères. Donc on est beaucoup dans ce secteur-là et progressivement on commence aussi à avoir des entreprises locales, hein, celles qui comprennent le sens de communiquer, mais on n'investit pas toujours assez. Et il faut que les gens comprennent qu'à ce moment-ci de l'histoire de l'humanité, bien communiquer permet de bien se vendre. Je sais que certaines personnes ont toujours cette idée qu'à bon vin, point d'enseigne, que par exemple mon entreprise est assez forte pour que je n'ai pas à communiquer, que mon pays est assez de ressources pour que je ne puisse pas communiquer. Mais si on ne communique pas, on peut se faire supplanter sur le plan du marché économique par d'autres entreprises qui communiquent bien, hein, parce qu'ils ont une image d'entreprise assez forte, par d'autres pays plus petits et qui savent où frapper et bien communiquer, et ils font passer leur message avant vous. Et vous arrivez en retard, vous manquez souvent de bien vous positionner économiquement ou politiquement parce que vous avez mal communiqué.
Certainement, vous n'êtes pas la seule entreprise à évoluer dans l'étude du marché, l'étude des perceptions. Comment cela se passe-t-il vis-à-vis de la concurrence?
Au niveau de la publicité, il y a de la concurrence, mais je pense qu'elle ne nous inquiète pas en tant que groupe, en tant que Pigment. Du côté des relations publiques, comme je l'ai dit, c'est un domaine assez spécifique et nous n'avons pas aussi à ce niveau-là beaucoup de... Enfin, je dirais qu'on a, sans fausse modestie, on n'a pas de concurrents. La vision qu'il y a au sein du groupe, c'est pas seulement d'être une agence de communication en RDC, mais en Afrique centrale et progressivement peut-être, pourquoi pas, panafricaine.
Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre travail?
J'apprécie beaucoup ce secteur parce qu'il n'y a pas de monotonie. C'est un secteur où il faut régulièrement se remettre en question. On peut être numéro un aujourd'hui, mais si on ne se remet pas en question, demain, un plus petit que vous peut avoir une idée géniale et puis vous se planter. On est ouvert sur les autres, ouvert sur le monde, parce qu'on ne travaille pas seulement avec la RDC.
On reproche à nos publicités congolaises d'être souvent longues, de fatiguer par rapport à ce qui se passe ailleurs, bien fait, très peu de temps.
Je pense que les choses vont changer. Quand le coût de la publicité à la télé sera un peu plus élevé, quand les consommateurs aussi vont s'adapter, parce que nous on s'adapte aux consommateurs. Si vous faites une pub, on a fait quelques publicités très courtes, hein. Il y a par exemple une publicité qui passe actuellement à la télé, celle de la boisson Légende, elle est très courte, les gens commencent à apprécier.
Comment vous voyez l'environnement d'investissement en République démocratique du Congo?
Un pays comme la RDC, c'est un pays qui peut vraiment évoluer rapidement avec petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire qu'on doit mettre en place des leviers pour permettre à ces petites entreprises-là d'évoluer. Parce que on ne peut créer une classe moyenne qui est la colonne vertébrale économique d'un pays qu'en ayant des gens qui travaillent. Et pour que ces gens travaillent, on ne peut pas que se fier sur les grandes entreprises. L'État actuellement n'est plus le plus grand employeur. Donc il faut se replier sur des petites et moyennes entreprises. Il faut leur donner des moyens de se développer. Ça peut être au niveau fiscal, des congés fiscaux, 3-4 ans de congés fiscaux selon les cas. Ça doit être aussi au niveau des banques, permettre aux entrepreneurs d'avoir accès au crédit, d'avoir des marges de manœuvre.
Ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
Ce qui n'est pas le cas. C'est la première chose, donc favoriser les PME, mais au-delà de ça, créer un environnement des affaires qui permet aux gens d'avoir une justice équitable. Donc il y a plusieurs choses qui doivent être faites, et si on le fait, très rapidement on verra que les petites et moyennes entreprises vont être un levier économique important pour le pays.
Merci beaucoup Didier Mpambia, merci à Jocelyne Moussaou et à Nick Mputu pour m'avoir aidé à préparer cette émission. Prochain rendez-vous le samedi prochain avec un nouveau numéro, toujours avec le même plaisir.